wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et la caméra, c'est par ici que ça se passe. Elle vient pas, elle bouge pas. Ça y est, elle arrive. I feel good, c'est 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité. 30 minutes pour être à l'écoute d'un homme, cette fois-ci, qui a avancé dans la vie. Et qui va nous partager ses ondes positives, effectivement, des ondes de... Ben voilà, c'est Olivier Philippot, mon invité cette semaine. Olivier, c'est difficile de vous dire comment il est, c'est difficile de vous dire ce qu'il anime. Il est un peu bourru, il se partage pas facilement. Je suis content de l'avoir dans l'émission parce que c'était pas gagné d'avance. Olivier Philippot, mon invité.
So good, so good, I got you.
Comme ça, il est un peu bourru. Je me trompe.
Bonjour.
Bonjour. Non, il n'est pas un peu bourru.
Oh, un peu. Ça dépend.
Ouais.
Non.
Ça dépend, ouais. Alors, il aime la vie, il aime profiter de la vie, il aime vivre.
Oui. Oui, je suis un passionné, en fait.
Ouais.
Tout ce que je fais dans ma vie, c'est par passion, plus que par raison.
Alors. Invité, t'es dans la rubrique, on va dire, chef d'entreprise. Hein,
c'est, oui, ouais, hein, c'est, je c'est, suis.
Tu l'es. Ça t'est venu comment, cette création d'entreprise?
Eh ben, ça a été dû à un licenciement, en fait, que sur une société d'informatique qui était amenée à réduire son personnel de province et qui a licencié tout son personnel de province. Et qui m'a permis de créer mon entreprise en reprenant cette activité en sous-traitance de la maison mère.
D'accord, donc c'était... on peut citer ou pas ou
c'est... Oui, oui, c'était Computer Vision.
Donc ils faisaient quoi alors?
Je faisais de l'installation et la maintenance d'un logiciel de CAO, CFAO.
Ça veut dire quoi ça?
Conception et fabrication assistée par ordinateur, et les plus gros clients en France, c'était Peugeot et Aérospatial. Donc c'était vraiment un truc pointu.
Donc ça imprimait ce qui avait été...
Non, ça faisait les plans, les dessinateurs dessinaient leurs projets dessus.
D'accord. Toi, tu as gardé une activité de sous-traitance
pour l'installation et la maintenance des machines, et en complément d'activité, parce qu'il fallait bien voir le futur, j'avais entamé une activité de reconditionnement de cartouches d'imprimantes laser. Et ça, à l'époque, c'était un peu à la mode, et j'ai un collègue sur Chartres qui avait lancé cette activité, et qui lui a profité pour former plusieurs collaborateurs à dans cette nouvelle branche.
Pour avoir justement des activités réparties sur le territoire français, c'est ça?
Voilà, ouais.
Donc toi, c'est comme ça que tu as créé ta boîte?
C'est, voilà, à partir c'est de, comme ça.
C'est un peu sur ces restes, on va dire, de cette bout d'activité non occupée, que tu as redéveloppé ta boîte.
Voilà, et puis en rebondissant sur des opportunités comme la maintenance, bah c'est un peu tombé à l'eau. Après, les cartouches d'imprimantes laser, c'est pareil. À un moment, je suis arrivé à un stade où ma production, je dirais au niveau artisanal, était arrivée à la limite. Et aurait nécessité un gros investissement pour passer au stade industriel.
C'est-à-dire limite, c'est-à-dire que tu produisais, tu ne pouvais pas faire plus, et tu étais obligé de passer un cap.
Voilà, tu es obligé d'investir beaucoup, et c'est un moment où déjà il y avait pas mal de gros faiseurs dans le domaine, donc c'était compliqué.
Donc on prend le temps de se raconter un petit peu tout ça, Olivier, parce que justement c'est tu te retrouves aujourd'hui patron d'une boîte qui va bien, mais elle est passée par des phases de marché qui ont changé sa nature.
Ouais, on a suivi un peu les opportunités. J'ai su saisir les opportunités qui se présentaient. Donc on a commencé par faire de l'impression numérique de la personnalisation laser, de mes lignes. Et puis après, comme je me suis mis à vendre un peu de matériel, j'ai eu des opportunités d'acheter des imprimantes de couleur. Et il y a une paire d'années, c'était pas vraiment courant. Donc j'ai commencé la prestation de services d'impression. Puis j'ai passé une petite imprimante, après un traceur. Après on plastifie, après on découpe. Après des plus grosses imprimantes, après des imprimantes industrielles. Donc j'ai pas arrêté d'investir, en fait.
Depuis combien de temps, alors ça, là, c'est une de tes trois dates importantes dans ta vie?
Oui, c'était en février, en mars, donc 10 mars 94.
Donc ça, c'est la date où tu crées ta boîte.
Voilà, où j'ai créé ma boîte, oui. Qui... Et ça fait dans un contexte intéressant, sur Computer Vision, c'est une société américaine, et au niveau social, on était vraiment très bien accompagnés, hein. C'était vraiment, on avait toutes les cartes pour réussir, en fait. Hein.
Donc, quand Computer vous a licencié, elle vous a accompagné, ils ont mis le paquet pour vous accompagner, t'as su rebondir. Tu me disais aussi t'as eu des coups de main, le frangin était venu donner souffler
une idée. Oui, parce qu'il était dans le marketing direct et il avait plein de mes lignes, il me dit t'as plein d'imprimantes, la laser qui servent à rien, juste à tester les cartouches en fait.
Ouais, ouais.
Il me dit moi je peux te ramener des petits mailings, les renvoyer dans le groupe à Paris, je peux te les sous-traiter. Je dis ok, le premier mailing qu'il m'a ramené c'était un mailing pour la poste de 40 000 exemplaires à personnaliser. Et ça avait été un peu rock'n'roll pour une première expérience. On avait réussi.
Ouais, parce que 40 000, il ne faut pas se louper quand même.
Non, il fallait juste l'adresse, il y avait des champs à remettre dans le texte aussi. Ouais, c'était un beau défi. Hein.
Ça veut dire quand même, on voit bien que ta stratégie s'est adaptée un peu aux besoins du marché. Voilà, ça doit faire quelques nuits blanches aussi ou quelques nœuds dans l'estomac de temps en temps.
Ah oui. Oui, c'est l'inconvénient d'être entrepreneur. Quand il n'y a pas assez de travail, c'est une chose, mais quand il y en a trop, il faut le faire.
T'as connu les deux?
J'ai connu plus de trop que de pas assez. Voilà, puis en plus maintenant, vu que j'ai pris une nouvelle activité d'apiculture...
On va en parler.
Ça fait des printemps assez chargés.
Parce que monsieur Philippot, donc alors, une petite boîte, hein, c'est une PME, hein,
ouais.
Vous êtes combien?
Bon, on est plus que deux maintenant, c'est deux. Très bien comme ça.
Ouais. Alors, t'as fait le choix de ne pas être une grosse boîte justement, tu disais où je passais un cap et puis je passais un process industriel et puis non, t'as fait le choix d'une petite PME,
ouais,
t'as réorienté tes activités aussi d'ailleurs.
Oui, on est monté jusqu'à 5 ou 6, mais moi je suis pas un gestionnaire d'humain, donc ça va pas forcément très très bien, donc... Là, on est deux, ça marche très bien.
Tu gères l'activité, vous êtes deux, on la profite pour saluer, notre Coralie.
Voilà. Moi, je m'occupe de toute la production, elle de tout l'administratif, tout ce qui est les flux rentrants et sortants. Donc.
Voilà. Donc ça, petite boîte, qui aujourd'hui, est-ce que cette boîte-là, ça t'apporte un peu de ton bonheur?
Ah, ça en fait partie, en tout cas, ça y... On se fait plaisir, en tout cas, oui.
Ouais, pourquoi?
Bah, moi, je considère que pour travailler, il faut le faire avec plaisir. Alors, si c'est pour travailler à contre-cœur, ça vaut pas le coup. Hein. C'est pas...
Et alors, pour corriger le tir du bourru, là, justement, qui ne l'est pas, tu mets dans ta relation commerciale, c'est comme ça que je t'ai connu, d'ailleurs, hein, dans ta relation commerciale, un énorme appétit de sourire, de gentillesse, de disponibilité aussi.
Ah, il faut du fun dans la vie. Hein,
ouais.
Il y a des gens avec qui je m'entends pas, j'ai pas envie de travailler avec, tant pis. Hein, mais...
Et ça, tu le fais, ça, ouais.
Ouais, ça se fait automatiquement.
Automatiquement.
si le courant passe pas entre les gens, forcément, ça va moins bien et on a moins envie de travailler ensemble.
Je voulais inviter Olivier pour casser un peu les stéréotypes qu'on pouvait avoir du chef d'entreprise qui fait du business plan, tout ça.
Non.
Hein, voilà.
Non, mais c'est le feeling, c'est pas non plus une grosse société, donc il n'y a pas des...
Non, mais c'est un choix de vie.
Oui.
C'est un choix de vie que tu as eu, là.
Ah ouais.
Et ça va faire 30 ans, je viens de faire le calcul. Du coup, derrière, je
vais faire le temps. On va fêter les 30 ans.
À fêter les 30 ans, ça va être quelque chose, ça encore. Mais 30 ans que tu vis comme ça et tu vis heureux avec cette petite boîte.
Ouais, on vit, voilà, on vit, c'est bien. Pas la peine de vouloir toujours plus, on est bien.
Je voulais aborder avec toi la question du stress, parce que c'est une réalité quand même. Tu fais visiter ta boîte et moi je suis toujours impressionné. Tu nous rends toujours une nouvelle machine, c'est quand même des millions d'euros d'investissement. Tu sais où tu vas, tu sais comment ça va, comment on sent, des milliers de...
Pas trop.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu une grosse machine une fois arrivée.
La dernière a été compliquée parce que je l'ai achetée, ça fait un peu plus d'un an. Donc juste après le Covid, pour avoir le pour avoir l'accord de financement après le Covid, là, après 2 années, on n'avait pas fait grand-chose. Ça a été assez compliqué. Heureusement qu'on a une subvention de France Relance là, qui nous a permis de faire basculer le banquier et de permettre cette acquisition.
Donc là, c'est un gros investissement qui t'amène pour combien de temps ? Parce que dans ton domaine, ça dure... des investissements lourds, mais qui doivent s'amortir très vite, quoi, parce que les machines...
5-6 ans, parce qu'après, les machines, elles marchent toujours, mais les nouvelles vont plus vite, impriment mieux, coûtent moins cher à l'entretien, donc...
On a un investissement aujourd'hui dans ton secteur d'activité qui ne dépasse pas les 5 ans, on est d'accord ?
Ah, on peut aller jusqu'à 7,
allez,
8...
Allez, soyons fous, 6 ans.
Mais après, ça... Non, au niveau de l'impression proprement dite, ouais, ça ne va pas très très loin.
Sur le marché de l'impression, est-ce que le marché de l'impression numérique, plutôt, hein, c'est un marché qui est en croissance ou pas ?
Oui. Ouais, ouais.
Contrairement au papier ? Et encore ?
Bah, c'est de la communication visuelle, ouais, là, donc ouais. C'est tout ce qui est stand, tout ce qui est affichage. L'affichage, les panneaux, la signalétique. Donc là, on ne va pas remplacer tout ça par des écrans du jour au lendemain. Je ne sais pas si à terme, peut-être. Hein,
ça, en tout cas, tu ne le ressens pas. Et ça, aujourd'hui, ce marché-là, il existe, il continue d'exister. Et puis, tu continues d'investir.
Tout à fait.
Pour en arriver là, Olivier, c'est un parcours d'ancien.
Tout à fait.
On en reparle dans quelques instants, c'est juste une petite pause musicale, histoire de découvrir la face cachée d'Olivier Philippot, ça, c'est un secret.
I just can't get enough.
Good sur RCN, Christophe Chevardet.
C'est Olivier Philippot, mon invité de la société PLS qui veut dire...
Philippot, Laser Service.
Ah, dites donc.
Ah, c'est
dites
classe.
Donc, c'était classe. Hein. Je vois bien la grande enseigne comme ça. Hein, comme ça, ça flash. Quoi. Voilà. En même temps, t'aimes rigoler, mais t'as pas le melon.
Non.
Hein, on peut le dire, non. Ça. Ouais.
Non, parce que je suis à la fois chef d'entreprise, à la fois balayeur dans cette entreprise. Donc,
Tout. Puis il y a besoin, il y a un perroquet aussi.
Oui.
Il est toujours là.
Puis un chien.
Un chien aussi maintenant, oui. Ouais. Tu rentres un peu dans la famille quand tu rentres chez Philippot. Quoi. Enfin voilà, il y a un esprit. Alors, je disais pendant la pause musicale, d'ailleurs, pourquoi cette pause musicale au fait ? Attends. Pourquoi cette pause musicale ?
Ah, ça me rappelle ma jeunesse.
C'est-à-dire que tu as eu une jeunesse déjà.
J'étais jeune.
Et elle a duré longtemps, ça.
Ah oui.
Et ça, c'était elle n'est pas tout à fait finie.
Hein. Et Depeche Mode, c'était la musique qu'on écoutait quand je faisais j'ai commencé mes débuts en radio. Je fais un petit peu de radio libre. À l'époque, on appelait ça. C'était ça, les radios libres.
Ah, mais ça s'appelle toujours de la radio libre.
Radio Agora, ouais, c'était ça. C'était une petite période, c'était sympathique.
Donc c'était Radio Agora à Nancy. C'était de la FM. C'était des années 80. Parce que Philippot était jeune, il a fait de la radio, tu faisais quoi alors ?
Non, moi j'étais technicien, j'étais pas un grand orateur. Donc.
Ouais. Non, ça n'a pas changé ça.
Non. Hein.
C'est pas trop la parole, c'est les actes.
Voilà.
Et je reviens du coup, mais je reviendrai à la radio, mais je reviens du coup au chef d'entreprise que tu es. Tu disais, ben, ouais, alors, je me la pète pas parce que voilà, je fais tout au boulot. Hein, voilà, tu as l'âme de cette petite PME qui répond aux besoins du client.
Oui, et c'est justement c'est le problème, parce que pour transmettre une société, s'il n'y a pas un bois dedans, ça va être compliqué. Donc oui, c'est un de mes soucis futurs.
Ça c'est à venir, mais on va rester. On va rester.
J'ai 2 ans de plus depuis peu pour réfléchir au problème.
Oui, c'est ça, tu vois, t'as eu un cadeau, on t'a donné un peu plus de temps pour y réfléchir, parce qu'on sentait que t'étais pas prêt. Donc...
Ouais, 2 ans de plus, c'est parfait.
Cadeau pour Philippot. Mais cette spécificité de la PME, ça vous donne quoi comme avantage, entre guillemets,
quoi, la réactivité. De pouvoir décider sans contrainte ce qu'on fait pas, ce qu'on peut faire, ce que les gens veulent qu'on fasse, quoi. Si on peut le faire.
Il y a aussi, si je puis me permettre, mais il y a aussi la capacité un petit peu de créer de la réponse aux besoins particuliers.
Oui, du mouton à 5 pattes.
Ce que tu appelles le mouton à 5 pattes. Ouais. Ouais.
Des choses qu'on fait, tac, on dit faire ça, bah... Réfléchis 2 secondes, on peut faire ça comme ça.
Par exemple, tu peux donner 2-3 exemples pour que nos auditeurs aient une image ?
Non.
Mais si on réfléchit un peu, tu vas y arriver. C'est moi, j'ai une expérience passée avec toi, mais voilà, je n'aurais bien pas donné forcément mes exemples. Mais voilà.
Non, je me souviens.
Ah, c'était pour Air Lorraine, la chambre d'agriculture, où on avait besoin d'un comptoir, on savait pas. Eh bien, tu nous as fabriqué un comptoir.
Ah oui, un comptoir en carton.
En carton, plume, là, plastique, je ne sais pas quoi. Tu nous as fait la découpe et tu as fabriqué le truc. Voilà. Alors que moi, je m'adressais à un prestataire qui fait des panneaux, quoi, d'habitude. Quoi. Là, tu nous as fait un présentoir, on a pu mettre un écran dedans, d'ailleurs, accessoirement, dans une formule évoluée après. Incroyable, enfin voilà quoi. C'est
pouvoir répondre aux besoins des clients.
Et si je puis me permettre, à un prix défiant toute concurrence. On aurait demandé, on aurait demandé la conception, on nous aurait facturé une conception de dingue quoi. Alors que là, bah voilà, on a conçu ensemble, on a dessiné ensemble, et puis on a fait le truc, et puis voilà, c'était. La petite demande du petit client de proximité, voilà. Quoi, avec le produit qui va bien. Quoi. Alors ça c'était pour l'activité d'impression numérique. Et puis il t'a pris, c'est la deuxième date importante dans ta vie, c'était il y a 5-6 ans.
Oui, c'est ça.
La création du miel d'olive.
Ouais.
C'est quoi ?
Bah, c'est de se lancer dans l'apiculture.
Pourquoi ?
Parce que j'étais un peu en panne de passion, parce qu'avant j'étais pas mal dans l'aquariophilie, j'ai eu beaucoup d'aquariums, et puis j'avais arrêté.
Il y avait des aquariums aussi dans la boîte.
Ouais, hein. J'avais 150 aquariums dans le bureau.
150
à
aquariums
à peu près, ouais. Ouais. Mais bon, ça commençait à coûter un peu cher en eau, en électricité. Et puis j'avais besoin de place pour mettre des machines, donc on était obligé de faire des choix.
Donc on a enlevé les aquariums.
Donc j'avais arrêté l'aquariophilie. Et puis je me suis lancé dans l'apiculture.
Pourquoi ?
Je sais pas, mais c'est passionnant. Découvrir les abeilles, c'est passionnant.
C'est-à-dire ?
À savoir comment ça fonctionne. C'est toujours très très intéressant d'explorer une ruche. De voir la colonie, comment ça vit. La ruche, il y a des abeilles, il y a la reine, il y a les... Mais ça fait qu'un seul être, en fait. C'est une seule entité. S'il n'y a pas la reine, les abeilles ne marchent pas. Si... Et c'est bien. Donc au début, on a une ruche ou deux.
T'as commencé comme ça ?
Oui, j'ai commencé avec trois.
Trois ruches.
C'est bien. Puis après, j'ai vite progressé. Et puis après, on dit, tiens, je vais faire des reines. Et puis l'année dernière, j'ai fait des formations pour faire de l'insémination artificielle de reines, pour faire de la sélection. Et avoir des bonnes abeilles qui correspondent à ce qu'on recherche exactement.
Tes ruches sont où ?
Elles sont, il y en a à Jarville, il y en a à Barbonville, il y en a à Rosières-aux-Salines.
D'accord. Ce goût pour l'apiculture, c'est un goût pour la nature ou c'est ou non c'est,
Oui, j'aime beaucoup la nature aussi. Et j'avais un oncle qui avait des vergers, qui est décédé maintenant, mais qui avait des vergers, et à l'époque lui aussi avait des ruches. Mais j'ai jamais pu partager cette passion avec lui.
C'était venu après ça ?
Oui.
Mais t'as un être, t'es pourtant, je me trouve, t'as un mec à te balader dans la nature comme ça ou Ah ouais, en moto.
Ouais, en moto, oui.
donc les ruches sont arrivées il y a 5-6 ans, et comme toute passion chez Philippot, ça prend
oui, ça un gros aussi, ouais, hein, ouais.
Parce que du coup, t'en as fait une activité aussi. Tu vends du miel ?
Une activité, le miel, c'est pas le tout de le produire. Après, on en fait quoi ? On va pas l'acheter. Donc, on est obligé de le...
Bon, excusez-moi pour mes questions à la con.
Mais c'est pas mon but premier de vendre
non,
le
c'est
miel.
Ça. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais,
à la limite, quand je fais du miel, c'est emmerdant. Quoi. Il faut le vendre. Ouais.
Mais c'est l'occasion de te voir sur des stands, c'est ça qui est rigolo. Voilà, tu vois Philippot sur un stand avec son stand de miel. Ouais. Donc du coup, alors cette activité, ça s'est développé à quelle vitesse et, parce qu'en 5 t'es passé de 3 ruches
ans.
Là,
ouais,
en 5 ans
là je suis à 45 ruches.
Oh ah oui,
ouais, je peux pas aller trop au-dessus parce qu'après on change de catégorie, on est plus en amateur, en loisir, on passe en prenant obligé de payer une cotisation à la MSA, cotisant solidaire.
Parce que derrière, il y a quand même toutes des habilitations à avoir pour avoir des ruches, des formations.
C'est mieux de se former, mais il n'y a pas de...
Ah ouais, non ?
Non, je crois pas qu'il y ait... Non, il n'y a pas d'obligation, c'est d'ailleurs un peu le problème, parce que... Non, il n'y a pas à ma connaissance. Hein.
On est bien d'accord que les ruches reviennent un petit peu au-devant de la scène, les abeilles reviennent un petit peu au-devant de la scène, parce qu'on en a besoin pour notre écosystème.
Là, après, il y a beaucoup de gens qui font mousser ça un peu. C'est vrai que c'est très très utile, les abeilles. Mais je sais pas. Après, on voit des pubs à la télé sur les abeilles.
Raison gardée.
Voilà. Mais les abeilles, c'est très bien. C'est du très bon miel. Et acheter du miel chez votre apiculteur local.
Mais c'est ça, Philippot, voilà, ça c'est Philippot. On va pas faire de la pub pour soi, on va faire pour un collectif.
Ouais, voilà, tous les apiculteurs locaux font du très très bon miel.
Et alors.
Et les abeilles font du bon miel par définition. Après, il y a différents. Suivant où les abeilles vont butiner, le miel va avoir un goût différent, plus ou moins fort, plus ou moins léger, mais ce sera toujours du miel.
Aujourd'hui, c'est une passion qui t'occupe, qui te laisse. Qui te prend beaucoup de temps.
Ouais, qui me prend tout le reste de mon temps, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a le travail PLS et le travail. Abeilles.
C'est combien de temps, les abeilles ?
En ce moment, c'est beaucoup.
Ouais, parce que c'est printemps. Parce que
ce printemps de mars, avril jusqu'à fin juin, juillet, c'est au moins deux jours ou trois jours par semaine.
Ah ouais ? Ah bah, 45 ruches, il faut quand même s'en occuper. Mmh. On fait quoi alors, s'occuper de ruches, c'est quoi le boulot ?
Eh ben, il faut vérifier que les ruches marchent bien, qu'il y a une reine, qu'elle pond bien, qu'elles ont assez de place pour se développer, qu'il faut mettre des hausses, qu'il faut les récolter, qu'il faut suivre le développement de la ruche.
Si tu récoltes,
faut faire des essaims pour l'année prochaine, s'il y a de la perte. Il faut faire des reines pour les vendre aux copains.
La perte de rennes, la perte de ruches aussi en général, c'est des choses qui arrivent, oui. Qui arrivaient beaucoup au début, aujourd'hui moins
Non, tout le temps. Là, j'en ai encore perdu il n'y a pas très très longtemps des essaims qui étaient magnifiques et qui sont morts de faim. Je n'ai pas surveillé. Tout au début de la saison, là, elles n'avaient plus assez de réserves et elles n'ont pas réussi à faire la jonction avec la nouvelle année. Pas réussi à trouver les bons. Il y en a qui sont très bien passés, j'en ai deux, la pime.
Alors, ça veut dire, mais qu'est-ce que tu peux faire là? Rien.
Ah, bah rien, là, la ruche, elle est morte.
Ah, d'accord, donc là,
c'est de l'aviculteur, hein, tant pis pour toi.
Ah, bravo, Philippot. Bravo. Bon, alors, le miel d'olive, juste, ça t'est venu comment? Ça, j'ai pas eu la réponse.
Le nom
ouais, Non,
le fait de l'apiculture.
Le fait de l'apiculture, ouais.
Je sais plus, je cherchais une nouvelle passion et. Ouais. Je sais plus, j'ai dû voir une pub ou un truc sur les ruches. Je dis, ah tiens, ça c'est bien, faut que j'essaye.
Ah, que ça soit PLS, que ce soit les ruches, c'est quand même le hasard des rencontres, hein, le hasard du moment qui fait que tu saisis la vie.
C'est l'occasion qui fait le larron.
Ah. Olivier Philippot, messieurs dames. Allez, parce que quand même, on va leur donner un petit peu de temps et on va regrouper les dates. Tu as tout de suite évoqué deux dates, le 17 septembre 95 et le 8 décembre 92, c'est ça?
Oui, la naissance de mes filles.
Alors pourquoi?
Ben c'est important la naissance de mes filles.
Pourquoi Philippot? Dites-moi,
ben
répondez.
C'est le futur.
Ouais.
C'est le futur, c'est l'avenir. De les voir réussir, c'est sympathique, de voir que ça évolue, on les aide, et puis après, ça s'envole.
Mais c'est pas un petit coup de vieux qui se prend à chaque fois, Philippot, quand même?
Ah bah si, il y a quelqu'un qui paye ma retraite. Hein.
Dieu merci, on t'a remis deux ans, toi. Alors, papa, il est fier de ses filles, c'est ça?
Ouais.
Pourquoi?
Moi, je suis très fier de mes filles. Bah, parce que j'aime bien ce qu'ils font, la grande, elle va partir là... Très prochainement, après un an de congé sabbatique, elle part faire un tour du monde. La petite, elle vient de se marier, elle a acheté un appartement, heureuse avec son copain. Donc tout va bon bien.
Ouais.
Et qu'elle attende d'être grand-père maintenant.
C'est un objectif pour toi, ça?
Ah, ce serait sympathique, ouais, mais je sais pas, c'est pas moi, non, c'est pas moi qui décide.
Je voudrais faire passer le message, en fait. Il faut bien que cette émission serve à quelque chose, quand même. Quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà. Olivier, parce qu'on a parlé un tout petit peu brièvement des activités de jeunes. Tu viens d'où, Olivier, toi?
Moi, je suis nancéen depuis toujours. Je suis né à Nancy, à la maternité.
À Pinard?
Ouais.
Adolphe Pinard, ah bravo, félicitations, ça c'est les bons, c'est les vrais anciens, ça.
C'est
la maternité régionale.
Oui.
Ouais, ensuite, études, t'as fait quoi alors toi?
Ah, j'ai fait un BEP CAP électronique à Beausserville. C'était une très très bonne école d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait un bac F2 à l'ESR.
Alors l'ESR, ça c'est pour les vieux, ouais, Jean Jaurès, c'est pour les vieux. Là, ça devient les vieux anciens,
c'est
pardon.
L'école de radioélectricité. Après, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industriel, option automatisme et système, à l'UT du Montaigne.
Il fallait bien ça pour un bonhomme comme toi. C'est là que t'as fait un peu de radio?
Ah non, c'était bien avant.
C'était avant?
C'était avant le bac, là.
Ouais, ah oui, c'était ado alors là. Oui, oui, d'accord.
18 ans, entre 18 ans.
D'accord.
Et puis après, j'en ai marre d'aller à l'école. Alors
c'est déjà pas mal quand même.
Bah ouais.
Un DUT, c'est
ça. Ouais. Ouais, j'ai un copain qui partait en école d'ingénieur. Je dirais non, encore prendre 3 ans, 4 ans. Non.
Donc c'est là que t'as basculé dans les boîtes?
C'est là que j'étais travaillé. Ben c'est là que je suis parti en vacances aux États-Unis. Et le lendemain de mon retour, j'avais un accident de moto, je m'étais cassé tout partout.
Ouais.
Et au bout de quelques mois, ma mère, elle m'a dit: bon, tu vas pas rester là comme ça à rien faire avec tes plots, tu vas trouver du travail. Hein.
Et c'est comme ça que t'as enchaîné?
C'est comme ça que j'ai cherché du travail à Paris.
Et on fait un petit coucou au tonton aussi, il y a toujours un tonton au Japon?
Ah, tonton, ouais, Japon, missionnaire au Japon. Mais il va revenir, là, il est en retraite et il va revenir prochainement.
Merci d'avoir posé tes valises, Olivier, sur ARCN.
Merci Christophe, à bientôt.
I feel nice, like sugar and spice.